forum du studio Kalangu.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu. Le thème d'aujourd'hui porte sur les accidents vasculaires cérébraux AVC, quelle prévention est prise en charge. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, 15 millions de personnes font un accident vasculaire cérébral, parmi lesquelles 5 millions meurent et 5 millions souffrent d'une invalidité permanente. D'après les résultats de recherche publiés dans le livre intitulé « Les AVC au Niger, aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et thérapeutiques », il ressort que l'AVC demeure toujours une maladie des personnes âgées car la tranche d'âge la plus touchée est celle comprise entre 56 ans et 65 ans. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral AVC et quelles sont les causes? Quels moyens de prévention contre cette maladie? Comment se fait la prise en charge de cette maladie? Pour avoir des réponses à ces questions et bien d'autres, nous avons invité M. Diallo Mahamadou Ali, victime d'un accident vasculaire cérébral. Al-Bachara Yacouba est membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Et Seydou Moussa Youssoufa, les médecins internistes. Merci d'être venu dans ce forum. Je suis Fatih Zakari à la présentation. Dans cette première partie de notre forum, nous allons parler de la situation AVC au Niger. Je commence par donc M. Seydou Moussa Youssoufa, vous êtes un médecin interniste. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral?
Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie le studio Kalangu pour nous donner cette occasion vraiment de parler de ce sujet qui est assez important, qui est vraiment un problème de santé publique, qui nous cause beaucoup de problèmes au quotidien. En fait, un AVC ou accident vasculaire cérébral est un accident ou un problème de santé qui survient lorsque un caillot de sang au niveau du cerveau est bouché. Donc, quand un caillot de sang au niveau des vaisseaux, au niveau cérébral, est bouché, ou bien quand un vaisseau se rompt, ce qui survient par la suite, c'est qu'une partie du cerveau ne reçoit plus de sang. Donc, cette partie du cerveau qui ne reçoit plus du sang se retrouve non fonctionnelle. La conséquence, on la connaît tous, c'est une paralysie de la partie du cerveau qui n'est pas fonctionnelle. Et ce qui est constaté le plus souvent, c'est ces malades qui se retrouvent avec une paralysie d'un côté ou d'un membre et parfois avec des troubles du langage. Donc c'est d'une manière ramassée comment on peut expliquer ce que c'est qu'un AVC.
Et quels sont les différents types d'AVC qu'on rencontre?
Le plus souvent, en fait, on a deux types d'AVC. On a ce qu'on appelle l'AVC ischémique qui est due à la survenue ou d'un AVC suite à une obstruction d'un vaisseau du cerveau, au niveau du cerveau. Donc là, c'est un vaisseau qui est obstrué. Donc ce qui est en amont n'est pas irrigué. Ça, c'est l'AVC dit ischémique. Et ensuite, on a l'AVC dit hémorragique qui est due à une rupture d'un vaisseau sanguin, toujours au niveau du cerveau, qui se caractérise par une hémorragie au niveau du cerveau, qu'on appelle l'AVC hémorragique. D'accord? La répartition, c'est que très souvent, on a la majorité des AVC, pratiquement 80% des AVC sont des AVC ischémiques, donc dû à une obstruction d'un vaisseau sanguin au niveau cérébral. Dans les 20% des cas, très souvent, c'est la forme hémorragique qui est due à l'hémorragie au niveau du cerveau.
Voilà. Et quels sont les plus fréquents ici au Niger?
On n'échappe pas à la règle. C'est toujours très souvent les AVC ischémiques qu'on a assez souvent. D'accord? Comme d'une manière générale, on est toujours aussi dans ces proportions-là, plus ou moins.
Diallo Mahamadou Ali, on dit que l'AVC ne survient que lorsque la maladie a atteint un stade avancé dans l'organisme. C'est en ce moment qu'apparaissent les symptômes. Est-ce vrai?
En ce qui me concerne, oui. Ça a été une surprise. Je suis allé signer un papier et ma main ne commandait plus. Les 10 minutes qui suivent, c'est le pied et c'est tout le côté. Et tout d'un coup, j'étais paralysé. J'ai appelé quelqu'un qui est venu me prendre et on m'a amené à la clinique. Comme il fallait faire un scanner et tout le protocole, ça a duré. Je suis parti à la clinique vers 14h et ce n'est qu'à 18h qu'on a conclu qu'il s'agit d'un AVC. Mm-hmm. Et c'est à partir de 18h qu'on a commencé à me mettre le sérum.
Docteur, quels sont les symptômes qui permettent donc de déceler l'AVC?
Les symptômes courants les plus connus, c'est comme vient de dire M. Diallo, c'est la paralysie. Donc c'est un patient très souvent qui est connu avec ce qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaire qui se retrouve paralysé d'un coup, comme il vient de le dire si bien, comme il vient de donner son exemple personnel, son vécu personnel. Donc le plus souvent, c'est une paralysie d'un côté, avec parfois une paralysie du visage qui se retrouve un peu déformée. Deux fois, un problème au niveau du langage, la personne est incapable de parler ou bien ne parle pas correctement. Il émet des sons mais qu'on ne comprend pas ce qu'il dit. Il y a des situations particulières. Deux fois, c'est juste un membre, le bras supérieur ou le bras inférieur qui est touché, qui se retrouve paralysé. Donc le plus souvent, c'est ces situations-là qui amènent le malade a consulté, le médecin fait son examen, il conclut à une suspicion d'AVC et c'est là où pratiquement le scanner est incontournable pour vraiment poser le diagnostic de l'AVC. Donc il faut faire un scanner pour voir au niveau du cerveau, est-ce que c'est un vaisseau qui est bouché ou bien il y a une rupture d'un vaisseau donnant lieu à une hémorragie.
Alors, Monsieur Seydou Moussa Youssoufa, vous êtes un médecin interniste. On dit souvent que l'AVC ne survient que lorsque la maladie a atteint un certain stade. Est-ce vrai?
Là, c'est vrai que c'est une évolution chronique d'une maladie. Mais il faut faire attention, il y a une certaine nuance. C'est quoi la nuance? C'est que très souvent, ce qu'on appelle les facteurs cardiovasculaires, tels que l'HTA chez nous, ou bien le diabète, ou bien l'obésité, c'est la personne est déjà souffrant, parce que l'HTA, par exemple, c'est une maladie sournoise. La personne a son hypertension artérielle depuis des années, sans un signe, ou bien que la personne a négligé. Donc du coup, l'évolution peut faire en sorte que la personne ne sait pas, mais la maladie a déjà évolué. Et du coup, on se retrouve devant un AVC, comme pour le cas de M. Diallo, qui survient de manière brutale. Et c'est à la suite de cet AVC-là qu'on se rend compte qu'il est hypertendu. Donc, il avait déjà les facteurs de risque, mais du fait de l'absence d'un suivi régulier dans nos contextes, donc c'est passé, on est passé à côté depuis des années.
Donc avant de donner la parole à Al-Bachir et Yacouba, je reviens vers vous, Diallo, donc Mahamadou. Vous avez été victime d'un AVC. Dites-nous comment avez-vous vécu cette maladie?
C'était d'abord pour moi une surprise, parce que je vous disais que je ne me sentais pas malade. Et c'est arrivé tout d'un coup. Imaginez-vous que vous quittez la maison le matin en forme, et que vers 10 heures, vous vous retrouvez paralysé, c'était vraiment une surprise. Le premier truc, c'était vraiment la surprise pour moi. Et quand j'ai quitté le Niger pour aller en Tunisie, et le médecin tunisien qui m'a suivi, c'était un professeur, le professeur Ahmed. Le professeur Ahmed m'a dit que si seulement ma prise en charge, le temps que j'ai donné de 14 heures, à 18h, il me dit que vous aurez moins de séquelles si la prise en charge avait été rapide. Mais malheureusement, ce n'est jamais rapide ici. Si vous devrez aller faire un scanner et autres, toutes les visites, vous ne les avez pas tout de suite. Il faut que ça prenne du temps. Et ce problème-là est récurrent dans nos unités médicales. C'est après ma maladie, j'ai constaté beaucoup de choses auxquelles je ne faisais pas attention dans le temps. Il y a beaucoup de lenteur pour la prise en charge. La deuxième chose que j'ai appris des médecins tunisiens, c'est que la simple aspirine, quand on doute que c'est un AVC, vous prenez la simple aspirine, ça peut vous aider d'aller jusqu'à la complication. C'est ce que je peux ajouter comme témoignage.
Merci, M. Diallo. Al-Bachir Yacouba, vous êtes un membre du CISAS. Donc, vous œuvrez donc, dans le domaine de la santé. Avez-vous fait une étude sur cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur?
Ok, donc merci de m'avoir donné la parole. C'est vrai, je réponds au nom de cette structure qu'on appelle le Syndicat unique de la santé et de l'action sociale. Mais je suis agent de santé, je suis infirmier de formation et je suis titulaire d'un master en ORL. J'aurais bien voulu, avant qu'on attaque directement le thème AVC, qu'on parle des situations dans lesquelles on est sujet à risque de l'AVC. Et tout de suite, docteur, dans sa dernière explication, il a cité l'exemple de l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est un problème de santé de taille. Où autrefois, il faut avoir un certain âge, il faut avoir une certaine aisance, une forme de sédentarité, pour qu'on pense que vous soyez quelqu'un qui va être sujet à l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nombreuses sont les personnes qui sont hypertendues. Donc, le thème que nous voulons développer, je pense que ça a un effet éducatif, préventif.
Je disais, si vous avez déjà fait une étude sur cette maladie qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde et dont le Niger ne fait pas exception.
Non, pas véritablement. Vraiment, nous n'avions pas fait d'étude par rapport à l'AVC. C'est des constats à travers les consultations de routine qu'on fait, à travers les partages d'informations qu'on a avec les parents et l'entourage. Mais sinon, de véritables études nous permettant de dire au Niger où dans telle ou telle année, il y a tel nombre de cas, nous n'avions vraiment pas effectué des études de ce genre.
Et on peut aussi savoir les régions les plus touchées par cette maladie.
Même ça, ce n'est pas assez évident, mais tout ce qui est sûr, quand vous prenez les gros centres de santé comme l'hôpital national de Niamey, comme l'hôpital national Amir Diallo, vraisemblablement, on a beaucoup de cas d'AVC, parce que c'est des services de référence où lorsque la périphérie essaie son premier coup et que les résultats ne sont pas bons ou ne sont pas probants, ils sont obligés de référer vers ces centres-là. Et j'avoue que c'est vraiment un défilé souvent dans certains services comme le pavillon A, comme le pavillon de la francophonie et les autres services de médecine. On voit vraiment un engouement assez énorme des personnes d'un certain âge vraiment qui font un défilé sur les bancs d'attente pour voir le médecin pour ces cas de consultation.
Quelles sont donc les actions menées par votre structure contre donc, cette maladie, contre l'AVC?
Alors, les actions que nous menons, c'est des actions d'ordre général. Nous, notre souci, c'est l'amélioration de la qualité du soin. Nous venons de sortir à peine, il y a 10 jours de cela, de la région de Zender, de Maradi, comme de Dosso par rapport à des sensibilisations pour que les personnes dont nous avons la charge de soigner soient éduquées de manière à ce qu'il y ait moins de cas de morbidité ou de mortalité par rapport surtout à ces maladies chroniques. Vraiment, c'est une vue d'ensemble, ce n'est pas de manière spécifique par rapport à telle ou telle maladie, mais j'avoue que les maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, sont des maladies sur lesquelles il faut faire beaucoup attention. Parce que de plus en plus, les sujets qui sont atteints par ces dernières deviennent de plus en plus nombreux. Et il faut qu'il y ait un diagnostic sérieux, un bon échange entre le malade et le prestataire pour déceler cela, afin que les risques, comme l'AVC, soit vraiment amoindri.
Docteur Seydou Moussa Ayoussoufa, les AVC attaquent très souvent les personnes âgées. Et nous avons aussi constaté que les adolescents aussi sont aussi victimes de cette maladie. Qu'est-ce qui fait ça?
En fait, d'une manière générale, les AVC, le plus souvent chez les personnes âgées, c'est dû à la présence de ces facteurs de risque qu'on appelle les facteurs de risque cardiovasculaires. D'accord. Mais il n'y a pas que l'HTA ou le diabète ou l'obésité qui peuvent entraîner des AVC. D'accord. Il y a d'autres maladies telles que les atteintes valvulaires qui peuvent donner des AVC. Donc il y a certaines maladies de cardiopathie congénitale qui peuvent donner des AVC. En fait, le plus souvent, les personnes âgées, quand elles font leur AVC, très souvent, c'est dû à ces facteurs de risque cardiovasculaire. Les personnes jeunes, c'est vrai que il y a des personnes jeunes qui ont toujours ces facteurs de risque cardiovasculaire parce que la tension, par exemple, on constate que de plus en plus le problème de l'hypertension artérielle, on a à des âges un peu plus jeunes. Donc, ce malade-là rentre aussi dans le même tableau des facteurs de risque cardiovasculaire. Mais il y a certains jeunes que ce n'est pas dû à l'HTA ou à... Il y a d'autres maladies qui peuvent être la cause de l'AVC, telles que les valvulopathies, les malades qui ont des maladies cardiaques avec les valvules qui ne fonctionnent pas bien. Il y a certaines maladies, telles que des maladies des systèmes, qui se caractérisent par un trouble de la coagulation sanguine dans l'organisme, où un caillot peut vite se former et être envoyé au niveau du cerveau pour bloquer. Donc il y a plusieurs autres facteurs de risque que la tension et le diabète ordinaire.
Et docteur, et le stress?
Le stress entraîne l'HTA. Le stress, ça fait augmenter la tension, parce que le stress, je ne vais pas rentrer beaucoup dans la physiologie, mais le stress, ça fait entraîner, ça fait monter la tension. Et que des tensions qui montent, on s'attend derrière à ce problème d'HTA.
Merci, docteur. Abdoulaye Mohamadou.
Je peux revenir un peu, rebondir sur quelque chose qu'il a dit,
allez-y,
si vous permettez.
Oui, allez-y.
C'est par rapport à l'aspirine dont il a parlé tantôt. En fait, l'aspirine, on le donne tôt, même ici, mais il a parlé de quelque chose d'important, qui est la lenteur. Cette lenteur est due au fait que le moyen de prise en charge. Vous ne pouvez pas donner l'aspirine tant que vous n'avez pas le scanner. Parce que l'aspirine, si il y a un AVC hémorragique et que vous donnez l'aspirine, vous compliquez le tableau. Vous créez plus de problèmes. Alors que si c'est un AVC ischémique, l'aspirine aide.
D'accord, docteur. Nous allons revenir sur cette question. Le temps donc de passer la parole à Diallo Mahamadou. Quelles sont les difficultés et comment arrivez-vous à les surmonter?
Les difficultés sont énormes. D'abord, par rapport aux médicaments. C'est des médicaments qui coûtent cher et c'est des médicaments à vie. C'est des médicaments à vie. Donc, la principale difficulté, là, c'est les médicaments. La deuxième difficulté, là, c'est la discipline alimentaire. On vous dit, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça. Or, en Afrique, et notamment au Niger, c'est difficile de se soustraire de la popote familiale. On ne peut pas faire un repas particulier par rapport à telle ou telle personne et de façon régulière. Et souvent même, ce n'est pas tout le monde qui a le choix des repas. Bon, tu trouves le repas que tu trouves, tu manges, si tu n'as pas les moyens, assez de moyens. Alors, je crois que c'est ça les deux difficultés. C'est-à-dire la discipline et les médicaments et le suivi. Merci.
Nous entamons donc à présent la deuxième partie de ce forum consacré à la prise en charge de l'AVC. Monsieur Al-Bashir Yakouba, vous êtes aussi médecin de formation. Et quelles sont les conséquences d'un AVC?
Les conséquences d'un AVC, vraiment, c'est un sujet apparemment en bonne santé qui tout de suite n'arrive pas à se mouvoir convenablement comme il en a l'habitude. Eh bien, il va y avoir une paralysie des membres. Le plus souvent, c'est le membre supérieur. Ça peut être tout le côté. Eh bien, vous comprendrez aisément que c'est difficile d'utiliser cette main pour les activités quotidiennes ou bien de se déplacer à volonté. Donc voilà une des conséquences qui est vraiment dramatique parce que ça met le sujet dans une situation de dépendance où vous n'êtes pas en mesure vous-même de faire les activités que vous avez l'habitude de faire sans demander l'aide de quelqu'un. C'est une conséquence sociale lourde. J'ai mon véhicule que je conduis aisément. Je le conduis, j'arrive à la banque pour signer mon chèque. Voilà que je ne peux plus reconduire pour aller à la maison. J'avoue, celui qui est très fragile peut être... Vraiment, il va être plus sonné parce qu'il n'arrive pas à comprendre cela. Souvent, comme on dit, c'est la pierre qu'on dépose sur le cœur. Pour accepter cela en tant que religieux, on n'a pas le choix. Et vous n'êtes pas sans le savoir. dans une famille, lorsque le père, le plus souvent, ou la mère, oui, qui est le pilier ou qui sont les piliers de cette famille, mm-hmm, se trouve dans une situation de ce genre, les conséquences sont fâcheuses. Mm-hmm. Beaucoup d'entre nous, il faut qu'ils se réveillent le matin pour tourner à gauche, à droite, pour assurer le quotidien. Mm-hmm. Et si cela n'arrive pas, j'avoue que ça va tout de suite se sentir par tous les éléments de la famille. D'où il faut bien que nous nous forcions de connaître quelles sont les raisons qui nous amènent à faire un AVC, mmh, qu'est-ce que nous devons faire pour y remédier, mmh, pour un peu parler de la lenteur qui est dans nos services de santé quand il s'agit de la prise en charge. Il y a bien entendu les moyens financiers qui sont, ou matériels qui sont insuffisants.
Oui, Al-Bachar, oui.
Donc, je m'arrête
la prise en charge interviendra dans la troisième partie de ce forum. À présent, M. Seydou Moussa, voilà, est-ce que les malades atteints d'AVC peuvent recouvrir leur santé?
Oui, bien sûr. Il a un peu ébauché la question.
Oui.
Santé par rapport à la paralysie. Mm-hmm. Une prise en charge précoce et efficace, mm-hmm, peut permettre vraiment la récupération. Mm-hmm. En fait, actuellement, au Niger, on est assez avancé. Seulement, il y a un problème de moyens qui se pose. On est capable, si l'AVC,
oui,
est diagnostiqué tôt, dans les heures qui suivent, mm-hmm, de faire une thrombolyse. C'est-à-dire que si c'est un caillot, mm-hmm, qui est parti boucher,
oui,
on peut faire le traitement pour détruire ces caillots-là,
mm-hmm,
le détruire, et donc irriguer la partie du cerveau, mm-hmm, qui n'est pas irriguée. Actuellement, c'est possible. Bon, ça a un coût vraiment énorme.
Mm-hmm.
Il y a un circuit qu'on est en train d'essayer de mettre en place,
oui,
pour que ça soit connu de tout le monde.
Mm-hmm.
D'accord? Donc, si c'est fait dans les heures, oui, qui suivent et que la personne se présente à l'hôpital, on a pu prendre en charge.
Mm-hmm.
Normalement, donc, la récupération est vite faite.
Mm-hmm.
Maintenant, la difficulté, c'est les autres cas où c'est un peu difficile, il y a tout un retard,
mm-hmm,
les délais sont dépassés.
Oui.
En ce moment-là, on se contente de gérer,
oui,
le facteur de risque.
Mm-hmm.
Et ensuite, il y a la kinésithérapie qui va suivre.
Mm-hmm.
Certains malades récupèrent par la kinésie,
mm-hmm,
d'autres non. C'est une réponse qui reste aléatoire.
Mm-hmm.
Donc, individuellement, chacun évolue de manière différente par rapport à l'autre.
Quels sont les services sanitaires indiqués pour la prise en charge des cas?
En fait, le premier service le plus indiqué, mm-hmm, c'est le service de neurologie.
Mm-hmm.
On a un service de neuromédical à l'hôpital national,
oui,
de Niamey, à l'hôpital général de référence et à l'hôpital Amir Diallo, l'ex-hôpital La Mordée.
Mm-hmm.
Ensuite, en dehors de ces services-là,
oui,
parce que l'AVC, c'est une maladie multifactorielle,
mm-hmm,
il y a les autres services, il l'a si bien dit,
mm-hmm,
les services de cardio prennent aussi en charge, les services de médecine interne aussi prennent en charge.
Est-elle gratuite, cette prise en charge?
Ça, vous posez la bonne question. Non. La prise en charge n'est pas gratuite, et c'est ça qui cause principalement le problème, parce,
mm-hmm,
qu'il l'a dit,
oui, tout à l'heure,
de voir prendre en charge, devoir gérer,
mm-hmm,
ou acheter régulièrement des médicaments à vie pour une personne qui se retrouve dans l'incapacité de travailler des fois,
mm-hmm,
qui doit être aidée ou soutenue par une tierce personne,
mm-hmm,
vous voyez le problème.
Oui.
S'il faut devoir payer, même si, bon, je ne dirais pas même si, s'il faut devoir payer 5 000, 10 000 par mois, toute une vie, même,
mm-hmm,
si c'est quelqu'un qui vous donne régulièrement, au bout d'un moment, elle va se fatiguer. Hein. C'est vraiment, il faut être honnête. C'est,
oui,
vraiment, c'est pas pris en charge et on comprend certaines situations.
Al-Bachar Yacouba, quelle est votre appréciation de la prise en charge de l'AVC dans les centres de soins au Niger?
Bon, l'appréciation que nous allons faire est,
oui,
une appréciation mitigée. Si les conditions étaient réunies,
oui,
les ressources humaines en quantité suffisante,
mm-hmm,
les moyens financiers au rendez-vous,
oui,
le matériel est là. Là, en ce moment, on pourrait faire une appréciation, mais j'avoue, dans un contexte où, je m'excuse du terme, tout manque,
oui,
il est difficile qu'il y ait une appréciation positive.
Mm-hmm.
Seulement, il faut faire avec. Vraiment, il faut faire avec. Il y a une chose qui me tient à cœur avant que je n'oublie.
Oui.
Quand l'ancien a parlé de l'aspirine,
le
docteur a bien expliqué.
Oui.
Maintenant, pour que les auditeurs puissent en profiter de cela, voilà ce que je vais ajouter. L'aspirine, comme on dit, c'est un agrégat plaquettaire. Ça empêche au sang de se coaguler. Donc, comme il y a un caillot qui peut boucher un vaisseau, quand nous prenons l'aspirine, ça va faire en sorte que le sang soit plus fluide et que ça circule facilement. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que l'aspirine est un anti-inflammatoire non stéroïdien qui, lorsque vous avez une hémorragie, ça l'empêche de s'arrêter. Voilà un peu la difficulté. Voilà la difficulté. Maintenant, ce n'est pas l'aspirine au terme du comprimé aspirine. Comme l'appellent les Américains, on les appelle les bébés aspirines. C'est des petits comprimés qui sont contenus dans une boîte que j'ai vue de 385 comprimés. Ça veut dire que vous avez un comprimé à prendre tous les jours. Maintenant, chez nous, ce qu'on fait, on divise le comprimé de 500 mg en 4, un quart de comprimé. Parce que quand vous prenez un comprimé d'aspirine, ça peut vous donner, réveiller votre ulcère. Si vous avez un problème hémorragique, ça va le faire davantage. Donc, c'est un peu ça. Cette utilisation d'aspirine. Je pense qu'on ne peut pas soi-même, parce qu'on est hypertendu ou on a un AVC, décider de le prendre. Il faut se référer au spécialiste pour qu'il puisse nous dire véritablement quelle est son utilisation.
Vous parlez tout à l'heure des insuffisances de la prise en charge. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont ces insuffisances?
Les insuffisances, j'ai parlé d'abord des moyens humains. Il n'est pas évident que dans tous les services, il y a le nombre de médecins spécialistes nécessaires pour prendre en charge tous les malades qui viennent pour les cas d'AVC. Il n'est même pas évident que nous ayons un simple petit appareil pour faire l'électrocardiogramme dans tous les services. Même s'il est là, il n'est pas toujours fonctionnel. Même s'il est fonctionnel, peut-être que l'agent qui est là n'est pas là 24 heures sur 24 heures. Ça va avoir un retard dans la prise en charge. Et les moyens, j'avoue que ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont assez de moyens pour veiller, pour dire ça c'est un cas d'AVC, c'est une urgence, ou si on ne le prend pas en charge de les heures ou de l'heure qui suit, voilà ce que ça va devenir. C'est ça.
Oui, Albéchère Yacouba, que faut-il faire pour améliorer la prise en charge des malades et réduire la souffrance des
pour
malades?
Pour améliorer la prise en charge des malades, l'État, c'est la force publique. Moi, je pense que l'État a un devoir de doter tous les services des moyens humains nécessaires, suffisants et du matériel pour que les gens puissent faire le travail au grand bénéfice de la communauté. C'est vrai, aujourd'hui, la santé, ailleurs, autant on économise pour acheter une maison, autant on économise pour acheter un véhicule, ce que nous, au Niger, on ne le fait pas. Autant chaque citoyen doit se dire, la santé étant... Et la santé et la maladie se suivent, comme on dit. L'être humain, il vit sur un continuum santé-maladie. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, demain, je tombe malade. Eh bien, pour prévenir cette maladie qui, incessamment... où inévitablement va venir, je dois mettre de côté quelque chose pour que lorsque cela doit arriver, je ponctionne dans ça pour subvenir à ce besoin, bien entendu, de recouvrer ma santé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. J'avoue, même nous, agents de santé, on banalise tellement les choses. La simple plaquette de paracétamol qu'on peut avoir tout de suite, on la néglige souvent, on court chez l'établi pour chercher. C'est dire que vraiment, ça, c'est dans notre culture de penser que bon, ben, la maladie, on va gérer quand elle vient.
Saïdou Oumoussa, vous êtes médecin interniste. Que faut-il faire pour améliorer la prise en charge de l'AVC et réduire la souffrance des malades?
Principalement, bon, la prise en charge, c'est vraiment les moyens humains et techniques et matériels pour aider le personnel et le malade à être bien pris en charge. Tantôt on avait parlé du scanner, je vous donne juste un exemple. Tantôt on avait parlé du scanner. Alors ils sont combien sont les régions qui ont un scanner au Niger? Plus de la moitié n'en ont pas. Et aujourd'hui c'est le centre, ça commence par ça, la prise en charge d'un AVC. Parce que il faut faire attention, on peut avoir une paralysie d'un côté sans que ça soit un AVC. Il y a d'autres maladies qui peuvent donner ça, sans que ça soit un AVC. Mm-hmm. Donc, du coup, nécessaire de faire le scanner. Mm. C'est vrai que quand on est dos au mur ou dans certaines situations, certains médecins spécialisés peuvent, en fonction du tableau clinique, la présentation du malade, essayer de voir ça tirer plus vers un AVC ischémique ou vers un AVC hémorragique. Mais le fait est que pour vraiment être situé sur le scanner. Alors, quand vous avez des médecins qui sont dans des régions où il n'y avait pas de, où il n'y a pas de scanner, vous voyez la difficulté. Vous voyez même l'aspirine dont on parlait tout à l'heure, vous allez vous retrouver avec un patient qui n'a pas le moyen d'être évacué dans un centre où il y a le scanner pour faire, pour être situé. Alors, comment va se faire la prise en charge? Et là, tantôt, j'avais parlé de prise en charge très rapide dans les heures qui suivent. Même si la personne a le moyen, quel que soit son niveau, il faut qu'il soit là dans les heures pour faire le scanner afin de une prise en charge à temps pour prévenir. Donc, tout ça, là, c'est des problèmes, c'est des limites qu'on a. Et ça, vraiment, moi, j'ai été médecin à l'intérieur du pays. Je l'ai vécu pendant 2 ans. Des difficultés où je me retrouve avec des malades qui ont une table clinique d'AVC et que je n'ai vraiment pratiquement pas le moyen. Même à Niamey, on n'a pas assez de moyens pour prendre en charge. Donc, c'est vraiment extrêmement difficile pour aider. Je pense que l'État doit faire davantage d'actions pour la prise en charge. Je parle bien de la prise en charge. Parce qu'il y a la prévention, il y a l'accès, le côté prévention sur lequel il faut agir encore. Je pense que ça va, on va revenir là-dessus.
Oui,
mais vraiment mettre à la disposition du personnel soignant ou bien des hôpitaux, de ressources humaines et matérielles, vraiment en quantité et en qualité suffisante pour une bonne prise en charge. Et si possible, prendre en charge certaines choses par rapport à la prise en charge des malades.
Oui.
L'AVC, pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le scanner, c'est la pierre angulaire.
Oui.
Pourquoi ne pas le rendre gratuit? Au moins, c'est des pistes qui peuvent aider.
Oui.
Si j'ai un malade chez qui je suspecte un AVC, est-ce que je peux? Parce qu'on a rendu gratuit plusieurs autres pathologies. Et là, tout à l'heure, je disais que l'AVC a un impact économique sur le pays. Donc, du coup, prendre en charge rapidement, ça permet de ne pas rentrer dans ces cercles vicieux-là. C'est l'État qui gagne. C'est pas seulement l'individu ou bien le malade, c'est l'État qui gagne. Donc, aller dans ce sens-là, c'est des pistes pour moi.
Merci, M. Seydou Issou. Diallo Mahamadou, selon vous, que faut-il faire pour améliorer la prise en charge et réduire la souffrance des malades?
Moi, je suis là, en réalité, comme un témoin, un témoin de ce que j'ai vécu moi-même. J'ai aussi, dans cette situation, échangé avec les malades qui ont souffert d'AVC et qui ont fait plusieurs pays, qui ont vu plusieurs médecins, des gens qui ont été en Chine, pour se soigner de l'AVC, je les ai rencontrés, parce que c'est aussi ma fonction de journaliste. Et dans notre jargon de journaliste, on dit les survivants de l'AVC. Tellement il n'est pas facile de s'en sortir. Quand on s'en sort, c'est souvent sur une brouette, ou difficilement, en marchant comme nous autres, entraînant quelques séquelles. Nous sommes les plus chanceux. Le pourcentage de décès est très important par rapport à l'AVC. C'est pourquoi les journalistes spécialisés en question de santé, ils disent les survivants de l'AVC. Donc, pour revenir à votre question, la prise en charge, ça c'est une question difficile, parce que la prise en charge, comme l'a expliqué le technicien, c'est d'abord des moyens humains au niveau de l'autorité, des moyens matériels et des moyens financiers de la part du patient. Mais à l'endroit de notre personnel de la santé, il faut ajouter aussi un problème de volonté. Vous pouvez être là en train de souffrir. Je vous assure, dans nos hôpitaux, les gens sont là et les techniciens de santé s'occupent de leurs affaires, tout bonnement. J'ai été moi-même victime. J'ai amené une fille de 6 mois. Et je suis arrivé, celui qui m'a recommandé, même je l'ai rencontré à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital à 6 heures. On me dit qu'il faut attendre 7h30 pour que les gens arrivent. Les gens sont arrivés à 7h30, ils sont occupés de ceci, de cela. Et ma fille qui était dans le coma n'a été prise en charge qu'à 11 heures. J'étais à l'hôpital depuis 6 heures.
Voilà. Merci, voilà. Merci Diallo Mahamadou. Monsieur Seydou et Albachar et Yacouba, que fait votre structure dans ce sens, améliorer la prise en charge?
Oui, l'amélioration de la prise en charge, c'est le devoir de tous les citoyens, parce que tout le monde est victime de manière directe ou indirecte. Je le disais tantôt, nous avions fait récemment une campagne de la qualité, comme il vient si bien de le dire, nous sommes conscients que tout n'est pas rose à la santé. Vraiment, nous ne sommes pas tous au rendez-vous. Certains de nous, comme on dit, c'est des brebis galeuses, ils ont un comportement qui fâche. Pour cela, en tant que structure qui regorge en son sein beaucoup de militantes et de militants, nous avions estimé que, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Vraiment, ce que les gens disent si bas, nous allons venir vous le dire si haut pour que vous preniez les dispositions nécessaires. Parce que là, le monde change. C'est vrai, au Niger, on a l'habitude de dire c'est Dieu, Allah est KO. Mais j'avoue que les gens vont arriver à un stade où on ne va pas continuer à dire ça. Parce que si on constate une négligence dans la prise en charge, un retard, eh bien, les gens sont éveillés. Aujourd'hui, sur le net, il suffit de cliquer, tu vas être aussi informé, je ne dirais pas comme le spécialiste, mais tu vas avoir beaucoup d'informations. Donc cela nous amène vraiment en tant que syndicaliste, en tant que responsable de ces travailleurs-là, dans le cadre de la protection sociale, vraiment, il faut qu'on se réveille, comme on dit, pour essayer de se faire violence sur soi, afin d'être à l'attente des clients pour lesquels nous sommes payés. Ça, vraiment, c'est notre devoir de tous les jours. Et même à partir du 14 prochain, nous allons sortir dans les autres régions pour passer le même message.
Seydou Moussa, quelles sont les mesures préventives qui peuvent être adoptées contre l'AVC?
Comme on l'avait dit dès le début, l'AVC, parler d'AVC sans parler de facteurs de risque cardiovasculaire, c'est impossible. Donc, la prévention de l'AVC passe par la prévention de ou la prise en charge de ces facteurs cardio de risque vasculaire. En fait, techniquement, c'est quoi le facteur de risque cardiovasculaire? En fait, on appelle facteur de risque cardiovasculaire des situations où, quand vous êtes dedans, dans ces situations-là, on pense que vous avez un risque d'avoir soit une maladie cardiaque ou une maladie des vaisseaux. Et parmi les maladies des vaisseaux, c'est trop l'AVC. Donc, la meilleure prévention ou bien la meilleure prise en charge, c'est la prévention. Donc, quand vous êtes dans ces situations-là, il faut prendre en charge normalement ces facteurs de risque cardiovasculaire. En tête de liste, l'hypertension artérielle communément appelée la tension chez nous. Donc, le plus souvent, c'est on a des malades, soit par souci de moyens ou des soucis de croyances ou je ne sais pas quel terme utiliser, se retrouvent avec leur pathologie qu'ils ne suivent pas, qu'ils ne prennent pas, excusez-moi du terme, qu'ils ne prennent pas au sérieux. Ils s'adonnent à des pratiques, ils jettent leurs médicaments, ils suivent pas, ils sont pas suivis par les agents de santé. Ces malades-là sont à fort risque de développer un AVC. Les malades diabétiques, qui ne sont pas régulièrement suivis, qui ne suivent ni régime, qui ne font pas d'exercice physique, qui ne prennent pas leurs médicaments, sont à fort risque de développer. Les malades, chez nous, on a cette fâcheuse habitude ou coutume qui constate à penser que plus on est gros et ventru, plus on est en bonne santé ou bien on a les moyens. Or, malheureusement, c'est aussi un facteur de risque. Ça expose à faire des AVC. Donc, du coup, la meilleure prévention, c'est de prévenir ou de bien prendre en charge ça. Vous le prenez en charge, un malade hypertendu. Il se traite régulièrement, il voit son médecin régulièrement, la tension est normalisée, il prend régulièrement ses antihypertenseurs. Un malade diabétique, pareil. Un malade qui est obèse fait un régime pour revenir à une situation normale. Tant qu'on le fait régulièrement, ça permet de prévenir l'AVC. C'est très simple, un point sur tout. on a vraiment des difficultés. Alors, c'est vrai que la tension, l'HTA, c'est une maladie chronique. Il faut expliquer quotidiennement aux malades que c'est, il faut un bon suivi pour prévenir ces complications-là. Mais des fois, vous avez un malade qui vous commencez à suivre, vous avez bien expliqué la situation. Après, vous les perdez de vue 3 mois, 4 mois ou 1 an. Il ne prend plus son traitement, il vous revient avec son AVC. Alors qu'il aurait fallu juste de suivre. Ça, c'est pour les malades qui se connaissent déjà, hypertendus, diabétiques, ou qui ont des situations à risque d'AVC. Maintenant, pour les autres, il l'a dit tantôt, oui. Au Niger, on ne se suit pas. Je suis sûr que la majorité d'entre nous ne connaissent même pas est-ce qu'ils sont en situation d'hypertension ou pas, ou bien s'ils ont une hypercholestérolémie ou pas. On part consulter que quand ça ne va pas.
Oui.
La tension, de temps en temps, il faut la contrôler.
Merci. Merci, Seydou. Monsieur Al-Bachir et Yacouba, quels sont les comportements à risque et ceux qu'il faut favoriser?
Ok, ce qu'il faut favoriser, mais j'avoue que pour le cas spécifique de l'hypertension artérielle, qui est cette maladie chronique, qui, bien entendu, a vraiment une incidence assez élastique, c'est plus une maladie liée à notre comportement que tout autre. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un malade qui consulte le service ORL pour un cas d'épitaxis. Il saigne du nez, on le refère pour faire le tamponnement. Un adulte, vous lui posez la question suivante parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Monsieur, vous êtes hypertendu? Il vous répond, je ne sais pas. À 50 ans, à 40 ans, vous lui demandez la dernière fois, même ceux qui savent qu'ils sont des sujets à risque parce qu'ils ont un père ou une mère qui lui-même est décédé d'une maladie cardiovasculaire, vous lui dites la dernière fois que vous avez contrôlé votre tension, c'est quand? La réponse est mitigée. Ça veut dire que les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Alors que chaque famille, chaque adulte doit avoir son appareil pour apprécier la tension. Les valeurs normales sont connues, 12-8 ou si vous voulez 12-7, 13-8. Au-delà de ça, il faut déjà penser à est-ce que ma tension n'est pas au-delà des chiffres normaux. À partir de 14-9, au-delà, vous êtes un hypertendu, mais c'est bien entendu des degrés. Mais j'avoue que souvent, les gens ne pensent pas à ça. Ailleurs, moi je connais, j'ai fait un peu le Mali, où tu vas voir les personnes à partir de 50-70, chacun a son carnet, sur lequel c'est consigné chaque semaine. Il y a même des infirmiers qui font de ça une profession. Ils circulent de famille en famille pour prendre la tension, moyen une modeste somme de 500 francs. Pour dire qu'il y a un problème de suivi. Lorsque, à un certain âge, vous ne savez même pas que vous êtes hypertendu, jusqu'à ce que l'AVC tape à la porte, ce n'est pas bien.
Voilà.
Maintenant, ce n'est pas fini. Maintenant, le problème, c'est le régime alimentaire. Vraiment, on refuse d'être discipliné.
Oui.
C'est vrai, c'est difficile pour un Nigérien, quand vous lui dites de ne pas manger le sel ou les arômes aujourd'hui,
oui.
Il va même te dire, viens me tuer avant la mort. Mais j'avoue, on est obligé de se discipliner pour qu'il y ait moins de conséquences. Les gens qui ont les gros moyens, qui mangent du n'importe quoi à n'importe quel moment, qui deviennent obèses, ils doivent faire le sport. Vraiment, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut s'apesantir pour qu'il y ait moins de cas d'AVC.
Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangu sur les accidents cérébraux, sur les accidents vasculaires cérébraux AVC, quelle prévention est prise en charge. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités par rapport à ce sujet, la prise en charge et les mesures préventives, des mesures préventives qu'il faut nécessairement suivre pour éviter donc les AVC. Nous étions en compagnie de Diallo Mahamadou Ali. Diallo Mahamadou est victime d'un AVC. Monsieur Al-Bachir Yacouba, membre du syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS, et Seydou Moussa Youssoufa, médecin interniste. Merci donc de participer à notre forum. Je suis Fatih Zakari à la présentation, la technique Abdelkader Tchambiano et la réalisation Mustapha Ayouba.